VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, un des grands favoris de la présidentielle du 29 novembre au Burkina, et l'ancien ministre Abdelassé Ouédraogo ont lancé dimanche leur campagne à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo, était à Bobo pour suivre le candidat Kabore, porte-étendard du MPP, son reportage.
Une des particularités de cette campagne électorale de l'après Blaise Compaoré est qu'elle se fait sans gadget. Et voici ce qu'en disent des habitants de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina.
Les campagnes passées, je voyais beaucoup de choses, les emblèmes, les t-shirts, les gens distribuaient de l'argent, des casquettes. Je voyais tout cela, mais cette fois-ci-là, bon, en tout cas, je ne vois pas.
La mentalité des gens même ont changé par rapport au vote. Puisque avant, les gens votaient par rapport au casier, les billets de 1000 francs, les sacs de riz, les paquets de thé. Maintenant, ce n'est plus ça. On a dépassé ça.
Nous étions au meeting de lancement de campagne de Roch Marc Christian Kabore, le candidat du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il a choisi Bobo-Dioulasso et son grand stade omnisport, Général Sangoulé Lamizana. Un défi qu'il fallait relever. On écoute le candidat Roch Marc Christian Kabore.
Lorsque nous venions ici à Bobo-Dioulasso pour tenir ce meeting au stade Lamizana, beaucoup de personnes ont dit qu'ils ne pourront pas remplir ce stade. Vous l'avez rempli et ça a débordé. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs, parce que nous sommes conscients que si les populations du Wé nous soutiennent, nous irons tout droit à Kossiam au soir du 29 novembre.
Zoumana Onogo, depuis Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
12 autres candidats en lice ont aussi entamé dans plusieurs endroits du pays leur campagne pour ces élections présidentielles et législatives. Des scrutins qui doivent clore la transition démocratique ouverte après la chute de Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir. Au Sénégal, série d'interpellations pour, je cite, apologie du terrorisme. À ce stade des enquêtes, 6 personnes, dont 2 femmes, ont été envoyées en prison et attendent d'être jugées. Une 7e a été relâchée, 2 Dakar. Le reportage de notre correspondante Sokna Nata Mbaye.
La première arrestation a eu lieu en mi-octobre à Kolda, dans le sud du pays. Quelques jours plus tard, c'était au tour d'un imam à Kaolack, situé à environ 190 km de la capitale, de 2 femmes dans la banlieue dakaroise et de 3 autres personnes. Ils sont tous accusés d'apologie du terrorisme. Le premier a traité les présidents Macky Sall, François Hollande et Barack Obama d'impi. Pour Ismaël Ndiaye, de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, ces propos n'honorent pas l'islam.
Nous n'avons pas le droit en tant que musulman de taxer quelqu'un comme ça comme étant un apostat. Le plus dangereux dans cela, c'est que cela met les savants de l'islam dans une position inconfortable. S'il s'agit des minbars où l'imam doit faire montre de sagesse, donc si l'imam perd tout ce sens de responsabilité jusqu'à appeler à des comportements en tout cas qui ne répondent pas à la sagesse que l'islam enseigne, alors ces imams-là ne méritent pas de monter sur la chaire.
Depuis le début de cette série d'interpellations, les autorités ont tenté de verrouiller l'enquête. Selon des informations, les 2 femmes arrêtées sont belles-sœurs. L'une est décrite comme étant plus radicale. Une amie d'enfance témoigne.
Vous savez, nous nous entendions très bien, mais quand elle a commencé à mettre la burqa, elle a complètement changé. Elle me saluait à peine.
Ces derniers mois, la présumée terroriste utilisait la carte d'identité de sa co-accusée. Elle allait souvent récupérer des sommes dans des services de transfert d'argent. Une fois, elle a perdu sa pièce d'identité et beaucoup d'argent. Depuis lors, elle se servait d'autres papiers et personne ne connaît la provenance de tout cet argent. C'est clair, c'était de l'argent facile. Plus de 400 millions de francs CFA ont été trouvés chez elle. Leur arrestation a été plutôt musclée. Les gendarmes ont dû tirer des coups de feu en l'air en guise de sommation. Ce vendredi, les 2 imams, un de leurs complices et les 2 dames ont été placés sous mandat de dépôt. Tous accusés d'association de malfaiteurs, de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux. Des charges retenues par le doyen des juges. Si les faits sont avérés, ils pourraient être jugés par une chambre criminelle et risqueraient au minimum 10 ans de prison. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, les autorités ont lancé depuis hier une vaste opération de désarmement forcé après l'expiration samedi de l'ultimatum donné aux individus et groupes armés pour déposer les armes illégalement détenues. Dans ce contexte, Bujumbura a qualifié de propos inappropriés d'une agressivité inouïe une déclaration du président rwandais Paul Kagame les accusant de massacrer leur peuple. Pour une analyse de la situation, Timothée Donangmaï a joint Gervais Wufyiki, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, exilé à Bruxelles.
Le Burundi vit une situation de crise très préoccupante, avec même un risque de massacre de masse depuis que les hautes autorités se sont relayées pour lancer des messages d'horreur, d'incitation à la haine et à la violence, notamment le message du président du Sénat, mais aussi le message de l'ultimatum du président de facto. C'est pourquoi d'ailleurs j'interpelle les corps de défense et de sécurité, particulièrement la police, mais aussi les jeunes Imbonerakure du CNDD, de ne pas exécuter les ordres les incitant à se livrer à des actes de barbarie, tels que le massacre, les tortures, mais aussi les pillages.
Mais les autorités disent qu'elles ont lancé l'ultimatum pour désarmer des individus armés qui se livrent à des massacres dans le pays.
Mais c'est qu'on voit quand même les gens qui ont déjà été tués, et ce sont des civils innocents. Par ailleurs, chaque fois qu'ils organisent des fouilles, le bilan n'est pas extraordinaire des armes qu'ils parviennent à ramasser. Et donc, c'est dire qu'il y a une autre volonté de nuire plutôt que de chercher des armes. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'invite tout le monde à tirer les leçons de l'histoire du Burundi, mais aussi de l'histoire d'autres pays, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont causé des catastrophes humanitaires, telles que les massacres de masse, mais aussi de génocide.
Quelle est votre réaction aux accusations du président rwandais Paul Kagame, selon lesquelles les autorités burundaises massacrent la population?
Mais lorsque on dénombre chaque jour des morts, il y a des gens qui sont kidnappés, il y a des gens qui sont arrêtés et quelques jours plus tard, on trouve un cadavre. Ça veut dire que c'est des instruments du pouvoir qui sont tuer la population. Et là, je ne pense pas que ce soit uniquement le président rwandais qui dit ça. Et c'est un fait hier qui ne s'observe pas à l'effet.
Alors, d'où viendra la solution à cette crise selon vous?
Alors là, la communauté internationale a aussi un grand rôle à jouer. Bien sûr, il faut une mobilisation aussi de la communauté burundaise à comprendre que la seule voie capable d'amener une solution durable à cette crise burundaise, c'est la voie de négociation, négociation inclusive et négociation sur des questions de fond qui ont été à la base de cette crise. Et ces négociations doivent se faire sous la médiation internationale et dans un pays en dehors du Burundi pour des raisons de sécurité.
Gervais Wufyiki, ancien deuxième vice-président de la République, joint à Bruxelles par Timothée Donangmaï. On passe à l'actualité ici aux États-Unis. Entretien ce lundi à la Maison-Blanche entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Barack Obama. Ce sera le premier tête-à-tête entre les deux leaders depuis la signature de l'accord historique sur le programme nucléaire iranien. Nous retrouvons Timothée Donangmaï pour plus de détails.
Benjamin Netanyahou a fait savoir que son objectif lors de cette visite est d'obtenir le renforcement de la sécurité d'Israël après la signature de l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays du groupe P5+1, un accord qui a sérieusement mis à mal les relations entre les États-Unis et Israël. Face à cette menace perçue, le premier ministre israélien estime que son pays a droit à des compensations de la part de Washington. Israël, a-t-il dit, cherche une augmentation substantielle de l'aide sécuritaire américaine sur la prochaine décennie en la faisant passer de l'enveloppe actuelle de 3 milliards de dollars par an à 4 ou 5 milliards annuellement. Les discussions de Benjamin Netanyahou et Barack Obama à Washington porteront aussi sur les 6 semaines de violence entre Israéliens et Palestiniens qui font craindre un conflit majeur et sur les moyens de faire baisser la tension sur le terrain.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute, on signale une fusillade dans une caserne en Jordanie. Un policier a tué 2 Américains et 1 Sud-Africain. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.